Witte vum Dach bei Maurice Molitor as hauten Politolog Philippe Poirier.
Hin enseigneier der Fuch op der Uni Lettzebusch, Monsieur Poirier, bonjour.
Moyen.
La Chambre des députés se penchera donc cet après-midi sur le premier chapitre de la réforme constitutionnelle, une réforme en quatre parties. C'est le début de la fin d'un processus qui occupe le Parlement depuis des années, depuis plusieurs législatures, et la preuve que même une histoire interminable peut être menée à bonne fin.
Sur ce premier chapitre, sans aucun doute, puisque c'est le chapitre sur la justice, bien que cela concerne chacun des résidents et des citoyens du Luxembourg, puisqu'il y a ce qu'on appelle les droits des justiciables, c'est une chose très importante, mais ce volet fait plus consensus parmi les partis politiques que d'autres aspects de la réforme constitutionnelle.
Le reste sera plus compliqué, mais c'est tout de même engagé sur une bonne voie.
Certainement sur ce volet-là.
Est-ce que le choix de faire voter cette première partie de la réforme, donc le chapitre sur la justice, deux jours seulement après l'adoption d'une loi qui pour certains constitue une entrave aux libertés individuelles, je parle évidemment de la nouvelle loi Covid, vous a étonné?
Oui, cela m'a étonné. D'ailleurs, c'est curieux de mettre ça justement presque simultanément. Pourquoi? Parce que bien que ça ne relève pas des mêmes ordres, là, le volet justice contient notamment les droits des justiciables. Le volet Covid, c'est une autre partie de la Constitution, ça sera la dernière partie, sur les libertés publiques. Mais comme il y a des contestations relativement importantes dans une partie de la société luxembourgeoise, on l'a vu avec la réaction des syndicats, on l'a vu avec les représentants de l'ORESCA, on l'a vu avec les groupes anti-vax qui se mobilisent quand même de manière relativement importante. Plus de 2000 personnes ont manifesté.
Oui, donc près de 4000
apparemment. Presque 4000. Eh bien, cela donne du grain à moudre à toutes ces oppositions en disant « attention !» Et ils font, eux, la confusion entre le droit des justiciables et les libertés. Ce qui n'est pas le cas, je le répète, ce n'est pas du tout du même ordre.
Donc vous estimez que, d'un point de vue politique, ce n'était pas la meilleure idée de faire ce vote en ce moment-ci?
Non, on aurait pu très bien le décaler de deux semaines,
même
par exemple.
Même s'il n'y a aucun lien direct entre les deux textes. Voilà. Mais bon, il y a des forces qui semblent avoir un intérêt à nourrir quand même la confusion qui se fait. Les anti-vax notamment, vous en avez parlé. Et puis, il y a sur l'échiquier politique l'ADR, qui, profitant de ce ras-le-bol d'une partie de la population, recommence à parler du référendum sur le nouveau texte de la Constitution, promis puis annulé. Est-ce que ce référendum était en quelque sorte dû, à votre avis?
Alors, après 2015, les référendums sur des partis qui avaient été conduits à un échec très important, tous les acteurs politiques ont réfléchi. Est-ce qu'il faudrait un nouveau référendum? Les acteurs de la majorité comme les acteurs de l'opposition. Dans l'essence même, dans l'identité politique de l'ADR, le référendum est essentiel, puisque c'est un parti qui relève de ce qu'on appelle la démocratie rédemptrice. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de distinction entre l'état de la société et l'état de la loi. Il doit y avoir un minimum de délégation. Pour les autres partis, les partis du gouvernement, ils sont investis de cette délégation des citoyens par les élections. Ils ont reçu mandat. Alors, ils avaient le choix. Ils avaient le choix soit de maintenir l'idée du référendum ou donc de passer par le vote constitutionnel. Mais là aussi, nous sommes dans un système politique en évolution au Luxembourg. Et il faut que les auditeurs comprennent bien cela. Avant 2015, ou avant même 2013, on était dans une démocratie consociative très classique. C'est-à-dire que les partis politiques de la majorité et de l'opposition arrivaient à s'entendre notamment sur les réformes constitutionnelles. Et ça avait commencé d'ailleurs sous la majorité Juncker, cette réforme constitutionnelle, en fin de compte. Après 2013, la démocratie consociative luxembourgeoise a des problèmes, se grippe, elle se transforme. Les rapports entre opposition et majorité sont beaucoup plus difficiles. Et donc, on l'a vu au référendum de 2015, le rapport étant devenu plus difficile, l'opposition s'est emparée du référendum pour non seulement répondre aux questions, mais aussi pour essayer de mobiliser contre le gouvernement. Donc le gouvernement et les partis de la coalition n'avaient pas d'autre solution pour aboutir à la réforme constitutionnelle que de choisir cette voie très classique qui est, enfin, classique, qui est constitutionnel, c'est-à-dire que le Parlement réforme article par article, mmh. ou par bloc, en l'occurrence, la Constitution. C'est le contexte politique qui modifie le rapport au référendum. Et puis, les partis d'opposition sont eux-mêmes divisés sur l'idée du référendum. Parce que le premier d'entre eux, le CSV, est quand même porteur historiquement, depuis Paul-Henri Meyers, d'une grande partie de cette réforme constitutionnelle. Donc, il ne pouvait pas s'opposer par référendum à un travail auquel il avait contribué pendant presque deux décennies maintenant. Donc la position était de ce point de vue-là. Alors, sur le volet de la justice, là, l'accord de la réforme constitutionnelle, avec le vote classique au Parlement, peut se faire. Par contre, il y a encore des points d'achoppement sur les autres parties de la Constitution. La monarchie constitutionnelle, même les pouvoirs du gouvernement ou la réforme sur la Chambre des députés, il va y avoir encore des éléments de discussion. Et là, on peut très bien se saisir, les uns et les autres, du référendum. Soit les partis de la majorité, pour passer en force par le peuple, vous allez dire, soit les partis de l'opposition pour que le peuple des citoyens se mobilise.
Mais même si le contexte politique a changé depuis 2013, il y a quand même eu en 2018 un accord sur un texte, le fameux 60-30, oui, le numéro du document parlementaire. Oui. Et c'est sur ce texte que les partis avaient promis l'organisation d'un référendum.
Oui, mais...
Donc je repose ma question, est-ce qu'il était dû? Parce qu'apparemment, donc, les textes n'ont... D'après l'appréciation de votre collègue Luc Reuchling de l'Université de Luxembourg, les textes n'ont pas fondamentalement changé.
Les textes n'ont pas fondamentalement changé sur le volet de la justice. Lorsqu'on promet quelque chose, normalement, dans un contrat de coalition, dans un projet de loi, on s'attend à tenir cette promesse. Mais là aussi, c'est beaucoup plus complexe parce que les citoyens sont très divisés eux-mêmes sur l'usage du référendum pour la réforme constitutionnelle. Lorsque, pour la Chambre des députés, nous avions organisé des groupes, des panels de citoyens au moment du référendum de 2015, donc il y a 6 ans, beaucoup de citoyens disaient « Mais ça, c'est l'affaire du Parlement. On vous a délégué notre pouvoir de réformer la Constitution. C'est trop complexe pour nous. » Donc, d'un côté, oui, il y a cet accord-là qui devait être tenu. De l'autre, il y a le changement de contexte politique. Et puis, les citoyens sont divisés. Et puis, je rappelle aussi que le référendum peut être à plusieurs usages. Il peut être très bien porté sur la Constitution et être utilisé dans ce sens-là, et ça fonctionne parfois, mais aussi un référendum est souvent utilisé pour d'autres raisons. Il mobilise d'autres motivations. Et d'ailleurs, les partis politiques aussi ont compris, du moins ceux qui souhaitent cette réforme constitutionnelle par le Parlement, qu'on est aussi dans la logique des élections législatives. On se rapproche de la logique législative. Or, un référendum, qu'est-ce que cela fait? Cela fait ce qu'on appelle le désalignement partisan. Les électeurs et les électrices ne suivent plus forcément les consignes de leur parti politique. À un an et demi et des poussières, ou un peu plus, des élections législatives, se lancer dans un référendum, c'est risqué. Et pour les partis de la coalition, mais aussi pour certains partis de l'opposition.
Quoi qu'il en soit, la polémique sur le référendum annulé lancé par l'ADR a créé une drôle de dynamique quand même dans le contexte politique luxembourgeois qu'on a pu ressentir à l'occasion notamment de la séance d'information de la Chambre sur la nouvelle, les nouveaux textes constitutionnels au Limpertsberg, une soirée houleuse avec une dimension presque trumpiste, n'est-ce pas? Des gens qui persistent à croire qu'une des finalités de la réforme consiste à introduire le droit de vote pour étrangers, par exemple, dans la loi suprême, alors que les parlementaires démontrent, texte à l'appui, que ce n'est pas le cas.
Progressivement, la démocratie luxembourgeoise est gagnée parce qu'il est gagné dans d'autres démocraties. Alors, appelez ça une forme de trumpisme ou d'un autre terme, de qualunquisme, on disait en Italie il y a plus de 60 ans, cela commence à prendre au Luxembourg.
C'est un nouveau phénomène?
C'est un phénomène qui a toujours été identifié dans les études des élections législatives que nous avons faites dans les 20 dernières années pour la Chambre des députés. Mais ce qui manque, ou ce qui manquait, c'est le vecteur, ce qu'on appelle le vecteur. Aucun des partis qui aurait pu s'emparer de cette
forme contestatrice du politique et de la démocratie au Luxembourg n'a réussi tout à fait à le faire, y compris l'ADR d'ailleurs. Mais on l'a vu à plusieurs reprises dans l'histoire électorale du Luxembourg. En 2005, au moment du référendum sur le traité constitutionnel européen, tout d'un coup, 44% de non sont arrivés dans une société qui était construite comme europhile, très pro-intégration européenne. Il y avait déjà des ferments dans la société luxembourgeoise. Alors, il ne faut pas non plus surestimer cette forme de contestation politique qui prendrait des formes de radicalité. On peut estimer, avec toutes les précautions d'usage, que cela représente toujours de manière sociologiquement, dans le corps électoral luxembourgeois, entre 20 et 25% du corps électoral. C'est beaucoup, hein, c'est important.
C'est un quart.
C'est un quart, mais ça n'a pas encore le vecteur politique comme dans d'autres démocraties voisines ou en Amérique du Nord.
Est-ce que le fait que les votes commencent par le chapitre le moins controversé risque de casser cette, cette dynamique en fait, qui s'est créée ?
Non, parce que ce type d'électorat ou ce type de contestation politique ne prend pas sur la justice. La réforme de la justice en elle-même, sauf le volet justiciable, mais le Conseil national de justice, le ministère public, ce sont des choses qui n'ont pas de prise dans la société ou qui ne sont pas compris par ce type d'électorat. Par contre, la réforme de la monarchie constitutionnelle, la réforme, justement, que le luxembourgeois devient la langue pour la première fois dans la constitution luxembourgeoise. La question des pouvoirs du gouvernement, d'autant plus avec une période Covid qu'on vient de connaître où on a connu un état de crise l'année dernière qui a été renouvelé à plusieurs reprises, d'une certaine manière, par les différentes lois Covid qui ne disaient pas son nom. Alors là, ça peut mobiliser, dans la deuxième partie de la réforme constitutionnelle, l'ensemble de ces groupes.
Et vous pensez que ce sera facile de raviver la flamme à ce moment-là ?
La flamme n'est pas éteinte.
De la contestation.
La flamme n'est pas éteinte. Elle existe. Il y a, comme pour prendre une métaphore, les cendres sont là, elles sont toujours... Et donc, oui, il y a une capacité de mobilisation. Mais faut-il encore avoir les vecteurs ? Soit les vecteurs syndicaux, ce qui ne semble pas être le cas, soit les vecteurs politiques. L'ADR, dans la perspective des élections législatives, et parce que c'est son ADN, c'est la démocratie rédemptrice, essaie d'être le champion de cette vogue. Mais d'une certaine manière, le parti pirate, aux dernières élections, avait été un vecteur de ces formes de contestation nouvelle du politique ou de ce qu'eux-mêmes, ils se présentent eux-mêmes, l'alternance.
Mmh. Même si les partis qui portent la réforme excluent de soumettre le texte aux citoyens, le référendum reste tout de même une option au cas où 16 députés ou 25 000 électeurs inscrits le demanderaient. Est-ce que vous pensez qu'il est faisable, possible de rassembler ces 25 000 signatures, sachant que la pétition actuellement en cours sur la tenue d'un référendum sur toute la Constitution rassemblait ce matin près de 6 800 signatures ?
Les 25 000 sont atteignables.
Ok.
En l'état. D'autant plus, parce que vous venez de le signaler de plus, c'est que depuis de nombreuses années, les Luxembourgeois ont pris goût aussi à la mobilisation à travers les pétitions. Donc, là aussi, des vecteurs politiques structurés pourraient conduire jusqu'à 25 000. Je ne sais, mais c'est tout à fait de l'ordre du possible.
Dernière question dans un autre contexte, Monsieur Poirier. Qu'en est-il chez nous de la primauté du droit européen ? Ce principe que la Pologne, la Cour constitutionnelle polonaise, a remis en cause. Donc ce principe n'est pas ancré textuellement dans le projet de constitution.
Non, dans le projet de constitution, il est marqué clairement que pour la première fois, le Luxembourg participe à l'intégration européenne. Le choix du terme « intégration européenne » est fort. On ne parle pas de la coopération, de la construction européenne, on ne parle pas de la participation à l'Union européenne, on parle de l'intégration. Donc lorsqu'on parle d'intégration en droit public ou en sciences politiques, cela renvoie que, justement, le droit européen, d'une certaine manière, porte la primauté sur le droit national. Et dans les avis du Conseil d'État, depuis une vingtaine d'années, il a toujours été rappelé que le droit luxembourgeois doit se conformer aux traités de l'Union européenne et donc au droit conventionnel européen, ce qu'on appelle en termes juridiques.
Et c'est une garantie forte. Et
alors, c'est une garantie forte. Par contre, dans le cas d'implémentation de directives européennes. Là, le Parlement national, la Chambre des députés, comme tous les autres parlements de l'Union européenne, ont la possibilité d'atteindre les objectifs, mais de manière autonome. Donc il y a toujours une possibilité pour le législateur national, non pas de transformer les objectifs de la directive, mais de l'amadouer, de l'amender, de l'orienter un petit peu, etc. Et ça, c'est le principe même de ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, qui est un autre principe de l'Union européenne.
Ich bin der Meinung, dass man Politologe von der Uni Lützburg, Philipp Poirier. Monsieur Poirier, merci beaucoup.